Alors ce matin, nous avons vu le premier récit biblique sur la création de l'homme et de la femme. Il n'y a pas de vocation, comme on l'a dit ce matin, plus ou moins importante. On voit que Adam est chargé de faire mémoire et que Ève, Nekva, est chargée d'accueillir, d'être ce réceptacle de la mémoire. Et que contrairement au dieu mythologique, le dieu de la Bible n'est pas un dieu sexué, mais que la sexualité est une composante essentielle du projet de Dieu sur la création. Elle est comme un miroir d'une réalité qui est en Dieu, mais qu'on ne le peut comprendre qu'imparfaitement. Donc c'est intéressant de voir que dans les deux cas, que ce soit ce récit que nous avons vu ce matin ou celui que nous allons aborder cet après-midi, la fécondité est l'expression d'une relation entre l'homme et la femme qui s'ouvre à plus grand qu'eux-mêmes. Alors voilà, donc on en est là. Et maintenant le deuxième récit qui distingue autant, c'était homme et femme, mâle et femelle, hein, stricto sensu, zahar et nekva en hébreu, homme et femme, alors que dans le deuxième récit biblique, il va y avoir une distinction entre les deux. Puis, donc on est en Genèse 2, 8, et puis à 25, 8 à 25. Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide assortie à lui. Dieu forma de la terre de tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel ainsi qu'aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide assortie à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme s'écria, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Or, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point de honte. Il y a beaucoup de choses dans ce récit qui est plus complet. Plus complet du point de vue, j'allais dire, de ce qui nous apporte au point biblique. Premièrement, la première chose, c'est que Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc voilà, il le met dans ce jardin. Gardez ça en mémoire, la question du jardin. C'est intéressant que la Bible commence dans un jardin et termine dans une ville. Jérusalem céleste. L'Apocalypse, c'est une ville. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de méditer là-dessus. Et donc, la question du jardin. Et il n'est pas. Alors, c'est la première fois dans le récit de la création qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chaque fois, il est bon, il est bon, il est bon, et Dieu vit que cela était bon, etc., etc. Bref. À chaque fois, c'était bon. Sauf là où on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme, il l'a planté au milieu du jardin, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, du coup, c'est intéressant de découvrir aussi que dans la vie de la Bible, il y a comme une imperfection à la création de l'homme seul. L'homme seul n'est pas image et ressemblance, ça c'est important. Il n'est pas seul, l'homme seul ou la femme seule ne sont pas image ou ressemblance. Ils ne disent pas quelque chose de Dieu seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Et j'aimerais méditer avec vous sur cette question d'aide. Parce que il lui présente après les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il les fit venir pour que l'homme voie comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu ce qu'on a dit ce matin. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, c'est l'homme qui nomme les autres êtres vivants, oiseaux du ciel, bêtes des champs. Et ça veut dire nommer, ça veut dire l'être. Ça veut dire, c'est l'homme qui dit ce qu'est un oiseau, telle forme d'oiseau, telle race d'oiseau. C'est donc c'est intéressant, ça veut dire ça, il est au sommet de la création. Le fait de nommer, il est au sommet de la création. C'est lui qui donne le nom, c'est lui qui reconnaît l'être des choses. Et donc l'être mésange n'est pas le même être que vautour, n'est pas le même être que rhinocéros, n'est pas le même être que bœuf, etc., etc. Donc il donne un nom à chacun. Donner un nom, c'est très important dans la Bible. Hein, donner un nom, évidemment, sans parler des animaux et des oiseaux, rien que des personnes, quand on donne un nom, quand Abraham s'appelle Abraham avec un H, c'est-à-dire qu'il a fait alliance avec Dieu, et le H du tétragramme, YHWH, qu'on traduit improprement par Yahvé, le H du tétragramme est tombé, pour ainsi dire, dans Abraham. Donc, le nom dit la personne. Le fait de donner un nom, c'est dire l'être des choses. Et il dit, il donne un nom, donc voilà, il présente l'ensemble de la création. Mais il ne trouva point d'aide assortie à lui. C'est intéressant de dire que derrière ça, d'aide, premièrement, affirmation. C'est que l'homme a besoin d'une aide. Il n'est pas dit que la femme ait besoin d'une aide. En tout cas, ce n'est pas dit. Mais il est dit que l'homme a besoin d'une aide. On va voir pourquoi il a besoin d'une aide. Parce qu'il a besoin d'être aidé. Mais ça veut dire aussi que l'homme ne va pas trouver dans les animaux, pardon pour ce que je vais dire, mais les êtres vivants avec qui s'unir. Contrairement aux divinités païennes, qui aussi mettaient des sortes d'animaux sacrés avec lesquels les hommes pouvaient s'unir. Donc, c'est important de dire que l'homme, c'est important, voilà, même si c'est un peu à la marge de la sexualité, ce qu'on appelle la zoophilie, l'homme n'est pas fait pour s'unir avec les animaux. Il lui faut une aide. C'est-à-dire, cette source de vie qui est en lui a besoin de quelqu'un qui lui ressemble, qui soit d'une manière aussi à son image et ressemblance. Il a besoin d'une aide. Et puis, il tombe un grand sommeil. C'est-à-dire que la création de la femme lui échappe. C'est-à-dire que la femme reste un mystère pour l'homme et l'homme reste un mystère pour la femme. Ça lui échappe. Alors que, d'une manière ou d'une autre, il a pu nommer l'être des animaux et des oiseaux, mais pour la femme, ce n'est pas lui qui va donner le nom. Il le recevra. Dieu, dans le langage biblique, prend de la côte fameuse côte d'Adam, c'est-à-dire de son désir de communion, de son désir d'amour, parce qu'il est à l'image, à la ressemblance d'un Dieu qui est communion et amour, il a besoin d'une aide. Et de ce côté, de cette côte, de son côté, il va former Dieu l'aide qui lui soit assortie. Et c'est intéressant parce que du coup, la vocation de la femme va être de rappeler à l'homme le primat de la communion sur l'efficacité. Va être de rappeler à l'homme le primat de l'amour sur le faire. Et alors, justement, c'est intéressant de voir ça, c'est que pour la première fois quelque part dans la Bible, eh bien, on voit cette intervention de Dieu qui vient au secours de l'homme. Et le mot hébreu qui dit « aide » désigne l'intervention de Dieu qui vient au secours de son peuple, d'un homme qui est aux prises avec un danger qui menace sa vie. C'est ça que ça veut dire. Aide, le mot hébreu qui dit aide, il y a quelque chose qui a à voir avec le salut. Ça veut dire que la femme est le salut de l'homme. De quoi la femme va-t-elle sauver l'homme? De l'enfermement sur lui-même et de la solitude. Elle va être une aide pour le faire sortir de lui-même, pour l'emmener vers elle et l'emmener aussi vers les enfants et l'emmener vers une parole. Parce que la première parole qui est rapportée dans la Bible d'Adam, c'est une parole à la vue de sa femme, à la vue d'Ève, c'est la première fois qu'il parle. En tout cas, on sait ce qu'il dit. Il a nommé les oiseaux, les mâches, il les a nommés, mais ce n'est pas détaillé. Mais la première fois où il parle, c'est-à-dire qu'il exprime quelque chose qui vient de son cœur, il exprime comme un chant d'amour, il exprime ce qui vient de ses émotions, etc. La première fois, c'est face à sa femme qu'il a emmené hors de lui-même, qu'il a poussé à une parole qui exprime ce qu'il habite en profond, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera femme. Et donc, on voit bien la femme qui est largement pas cantonnée à un rôle subalterne, au contraire, mais qui est présentée dans une vocation salvifique, salvifique dans le sens, on l'a dit, sauver l'homme d'un enfermement, d'un face-à-face avec lui-même. Il a besoin, l'homme aussi, d'une aide parce que sa masculinité ne résume pas toute la création. Il n'est pas image et ressemblance que par sa masculinité. Il a besoin que l'image de la création soit complétée. L'image n'est pas parfaite. Pour que l'image du créé et du Dieu invisible soit complète, dans Adam, il faut Ève. Ni l'un ni l'autre est complet. L'ensemble, la relation des deux est image de Dieu. C'est ça, c'est la relation, c'est le lien entre les deux qui font image et ressemblance. Mais seul, aucun des deux n'est image et ressemblance. On voit cette idée de salut, par exemple dans Exode 18, 4. Le Dieu de mon père est mon secours, il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Sauver, c'est il m'a aidé. Donc c'est la même nature, même mot, aidé. Dans les psaumes, psaume 33, notre âme attend le Seigneur, lui notre secours, notre aide, notre bouclier. Donc c'est intéressant que de voir que la vocation de l'homme, c'est de faire mémoire, la vocation de la femme, c'est d'apporter le salut. Et de la femme, il est dit qu'elle sera une aide. Mais en hébreu, ça se dit comme ça. Ezer, E-Z-E-R, Kengdo, K-E-N-E-G-D-O, K-E-N-E-G-D-O, Ezer, Kengdo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une aide en face de lui ou une aide contre lui ou vis-à-vis. Il y a plusieurs sens, et ça c'est assez intéressant. Aide signifie vis-à-vis, un autre lui-même. La femme est un autre lui-même. Dans les êtres des animaux, il n'a pas trouvé d'autre lui-même. C'est le signe que l'être humain n'est vraiment lui-même que dans le face-à-face avec un autre, qui lui, dans la relation de réciprocité où l'aide prend forme aussi d'un soutien. Il peut être lui-même Adam parce qu'il est soutenu par sa femme. Mais une aide contre lui, stricto sensu, une aide contre lui, s'entend de deux manières. Aide tout contre, c'est-à-dire dans le côté à côté, côte à côte. Il est dans le côte à côte avec sa femme, dans la communion. Mais il peut être aussi une aide contre lui dans l'adversité. Et on voit bien que la femme devra donc se positionner entre ce côte à côte communion qui rendra leur union féconde, ou bien une aide opposée à lui jusqu'à le détruire. Et on voit que la femme, de ce point de vue-là, a un rôle absolument fondamental. Combien d'hommes ont été sauvés par leur femme ? Combien ? Combien ont été détruits par leur femme ? Contre lui. Est-ce qu'il y a... Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a... Donc, dès le commencement, la femme a eu cette mission de collaborer avec l'homme en vue de l'œuvre de Dieu et de son identité est un rapport à l'homme. C'est-à-dire, elle a ce rôle de ramener l'homme à Dieu, mais elle peut aussi l'éloigner de Dieu. C'est très intéressant de voir, par exemple, dans la rencontre chez Simon le pharisien. Vous vous rappelez peut-être cet épisode très émouvant en même temps, où Jésus se laisse toucher les pieds par une femme. Quand on dit femme dans Saint Jean, c'est dans Saint Jean simplement, c'est-à-dire l'humanité, une femme pécheresse qui arrose ses pieds de ses larmes, les sèche de ses cheveux, parfume sa tête, etc. Quelque part, elle met en contact avec le Christ ce qu'elle avait utilisé pour éloigner l'homme de Dieu, les cheveux, les baisers, les larmes, le parfum. Et du coup, on voit qu'il y a un grand, grand pouvoir chez la femme, justement, d'orienter et de sa manière d'être tout contre. Dans l'intimité matrimoniale, dans le côte à côte, de donner naissance à la vie, ou dans l'opposition, de détruire. Parce que la femme est salue ou perte. Mais il n'est pas dit ça de l'homme. C'était intéressant. J'aime bien les films. Et donc, du coup, vous vous rappelez peut-être dans Le Seigneur des Anneaux. Ça date un petit peu. Dans Le Seigneur des Anneaux, les Nazgûl, ça vous dit quelque chose? Les grands Nazgûl, là, les grands oiseaux, etc., etc. Et les Nazgûl, il y avait des spectres qui chevauchaient les Nazgûl. Il y avait 9 spectres pour les 9 anneaux, que le seul anneau, le précieux, dominait tous et gouvernait tous. Et donc, il y avait le roi qui était là, et il arrive, et face à ce spectre chevauchant, le Nazgûl, cet oiseau est énorme, et du coup, et qui arrive et qui dit « Aucun homme vivant ne peut me tuer. » Et puis on voit un soldat qui s'approche, qui plante son épée dans le spectre, et on voit le spectre se rabougrir complètement et terminer en cendres. Un homme, oui, et enlevant son casque, on voit une magnifique chevelure blonde, mais une femme. Là, évidemment, on pense à la Très Sainte Vierge, je veux dire, dans le sens où on voit qu'en Marie, il y a l'accomplissement du salut qui nous est donné. C'est pour ça que la dévotion à la Vierge Marie, l'amour de la Vierge Marie, n'est pas optionnel, il est de l'ordre de notre foi. Parce qu'en Marie, le salut est donné à l'humanité par le don du Christ. Mais son accueil de la parole de Dieu en l'Annonciation est déterminant. Soit l'humanité est sauvée, soit non. Et on voit bien aussi, puisqu'on va faire, on va jusqu'au bout de la comparaison, dans un jardin se termine la vie du nouvel Adam, le Christ lui-même, le jardin des Oliviers. De son côté transpercé viennent l'eau et le sang qui donnent naissance à l'Église, l'épouse. Et Marie reçoit cette eau et ce sang qui viennent de son côté transpercé et le donne à Jean, voici ton père, ta mère, voici ton fils. C'est-à-dire que l'Église, elle est épouse, dans le sens où elle est chargée de nous rappeler le primat de l'amour sur l'efficacité. Elle est d'abord féminine, l'Église, contrairement à ce qu'on peut penser. Et l'Église hiérarchique, qui est masculine, est au service de l'Église communion. Parce que c'est le primat de l'amour sur l'efficacité, et même sur l'ordre. Parce que le vrai ordre, c'est l'amour. Donc on voit bien que la femme peut devenir l'alliée de l'homme ou son ennemi, apporter la lumière ou les ténèbres, élever ou abaisser, féconder ou stériliser, selon l'utilisation de sa liberté. Et ensuite, quand Adam proclame cette première parole, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Hein ?» Ben, on voit bien qu'après la création des animaux qui ne convenaient pas à Adam, eh bien, il y a la création de la femme qui répond à son désir d'amour. Contrairement à Adam, Ève n'a pas été prise du sol. Adam, ça veut dire le glébeux, le terreux. Adama, la terre. Mais Ève n'a pas été prise du sol. Elle a été prise d'une chair qui a déjà reçu l'esprit de Dieu, Adam. Et elle-même a reçu l'esprit en sa création. Ça veut dire, pourquoi la femme est bien plus spirituelle? Parce que précisément, dans la parole de Dieu, on voit clairement qu'elle est de sa nature spirituelle. Ce qui veut dire aussi qu'en elle, il y a un combat peut-être plus grand. Un combat pour être cette aide, côte à côte, avec son mari. La femme n'a pas besoin d'être aidée, en tout cas ce n'est pas dit. Pourquoi ? Parce que quelque part il y a une plus grande unité en elle-même. Elle est moins déjà tiraillée dans sa sexualité. L'homme, on voit bien, âme et corps, son désir sexuel a une certaine véhémence, et donc du coup, on voit bien qu'il y a un tiraillement en lui. C'est difficile d'arriver à une unification au plan de la sexualité chez un homme. La femme est plus paisible, apaisée. Plus, on peut trouver des femmes qui ont un grand désir sexuel, d'autres, des hommes qui ont très peu de désir sexuel, bien sûr, mais on est un peu dans la généralité. Donc on voit qu'il y a une plus grande... C'est plus paisible. Et du coup, quelque part, la femme est plus autonome de ce point de vue-là, plus unifié. Et c'est vrai que une femme vit bien plus facilement seule qu'un homme ne vit seul. Beaucoup plus facilement. un homme seul, surtout s'il est dans la force de l'âge, etc., il est seul aussi avec son désir sexuel, et donc voilà, il est un peu empêtré là-dedans, quoi. Mais une femme trouvera beaucoup plus de facilité à être seule, et c'est pas pour rien non plus que, ben, on peut dire que les femmes ont plus d'espérance de vie que les hommes, parce qu'elles sont plus aussi à même de gérer une vie autonome. Mais attention, qu'est-ce qu'elles vont en faire de ça? Est-ce que ça veut être une aide côte à côte ou opposée? Est-ce qu'on s'en sert comme une arme ou comme une aide et un soutien? Il y a un combat spirituel dans la femme très fort, parce qu'elle est plus spirituelle, on l'a vu, mais parce que aussi, d'une manière ou d'une autre, la vocation de l'homme en dépend. Et c'est intéressant dans le texte sacré, comme on voit qu'il y a un sommeil, une torpeur. Dieu fit tomber une torpeur, un sommeil sur l'homme qui l'endormit. Donc non seulement pour dire que le mystère de la femme échappe à l'homme, mais aussi ce sommeil, les pères de l'Église l'ont ramené à cette forme d'extase d'Abraham, qui aussi a reçu l'alliance en Genèse 5, 12, 18, Genèse 5, 12, 18. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Donc, dès qu'il y a une torpeur, dès qu'il y a un sommeil, et on parlera la même chose du Christ, en sa mort, il s'est endormi dans la mort, et résurrection veut dire réveillé de la mort. Dès qu'il y a un sommeil, il y a une œuvre de Dieu. Ce n'est plus l'œuvre, l'homme qui a la manœuvre, c'est Dieu qui a la manœuvre. Parce que l'homme est dans une attitude, l'homme ou la femme, dans une attitude de totale vulnérabilité et docilité dans le sommeil. Et ensemble, Adam et Ève disent quelque chose de Dieu. Les rabbins disent qu'il faut être deux pour accueillir Dieu. Ève constitue le second côté de la demeure qui était nécessaire pour accueillir Dieu dans le temple. Exode 26, 20. Dieu demeure dans le temple qui a deux côtés, un second côté, comme Dieu demeure dans la communion de l'homme et de la femme. Il faut être deux pour accueillir Dieu. Et c'est intéressant que c'est Dieu lui-même qui présente à Adam, à l'homme, sa femme. C'est Dieu lui-même qui la lui présente, l'offre comme un signe de son amour, elle vient de lui, elle a été tirée de l'homme, mais elle vient de Dieu. Et c'est la première fois qu'est prononcé le mot « femme », alors que dans le premier récit, c'était mâle et femelle, là c'est homme et femme, c'est la première fois dans la Bible qu'est prononcé le mot femme. Quand l'homme lui donnera son nom de femme, celui-ci aura déjà été prononcé par Dieu, la femme rappelle à l'homme la parole prononcée par Dieu. Mais Et donc, alors s'écria cette fois-ci, celle-ci est l'os des os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme celle-ci. Genèse 2, 23. Il y a un jeu de mots en hébreu. Adam se dit Ish, YSH. Femme se dit YSAH, Isha. SH veut dire en hébreu feu. Ça veut dire que quand l'homme et la femme, donc vous avez bien noté ça, il faut bien YSH pour l'homme, YSHAH pour la femme. Ish. YSH pour l'homme. YSAH. SHAH. Pardon. Is. Mais j'ai pas de quoi écrire. Bon, voilà. Y. On peut allumer la lumière d'abord, oui. YSHAH. YSHAH pour la femme. C'est bon? Vous avez tout compris ou pas? YSH, YSHAH pour la femme. Ish, Isha. Bien. En hébreu, ne compte que les consonnes. Les consonnes, les voyelles se mettent entre les consonnes. Mais ce qui est important, c'est comme en arabe, c'est les consonnes qui comptent. SH veut dire feu. Ça veut dire que quelle est la différence entre l'homme et la femme? Il y a le Y qui est commun, Y S H A H et le H. Donc il y a le Y et le H, on peut dire le Y et le H qui sont différents. Ce qui est commun, c'est SH. Mais ce qui est différent, c'est Y. Non, Y, c'est comment? Mais ce qui est, c'est le H final. AH, AH, H. Et le H qui est différent, le H qui est différent, il vient d'où? C'est bon, vous avez suivi parce que j'ai pas de tableau. Vous avez suivi ou vous n'avez pas suivi? C'est pas grave, c'est enregistré. Donc, le H, il vient d'où? Et de Dieu. Du tétragramme. Il vient du tétragramme. C'est-à-dire que si l'homme et la femme reconnaissent la présence de Dieu dans leur vie, ils sont féconds. S'ils enlèvent cette présence de Dieu, il reste quoi? SH, le feu. C'est-à-dire l'opposition, la souffrance, la mort. Soit la femme permet à l'homme de recevoir la présence de Dieu. Et les deux découvrent ce H du tétragramme qui vient dans Isha. C'est intéressant, c'est dans Isha. C'est pas dans Ish qui est le tétragramme. C'est dans Isha, c'est-à-dire dans la femme. Et donc, du coup, l'homme reconnaît dans sa femme quelque chose qui vient de Dieu. Soit ils ne reconnaissent pas ensemble quelque chose qui vient de Dieu dans leur communion. Et donc, qu'est-ce qui a enlevé ce le H? Et donc, il reste le Y et le SH. Y aussi vient du tétragramme. Y et H, c'est YW. C'est combien? YHWH, c'est le tétragramme. Tétragramme, YHWH. Ben, si j'enlève le Y et le H à la fin, il reste SH à la fin. SH, c'est le feu. J'enlève ce qui est de Dieu, il reste l'opposition. Je laisse ce qui est de Dieu dans le nom, parce que le nom dit la personne, je laisse ce qui est de Dieu, eh bien c'est la communion et c'est la fécondité. Et le combat, il sera là. Et c'est intéressant de voir ça. Le combat, il est là. Il y a une égalité dans le langage biblique, une égalité foncière entre l'homme et la femme. Et toutes les formes d'inégalité sont le fruit d'une construction humaine. Dans le texte biblique, clairement, je vais presque dire, il y a presque une supériorité de la femme. Parce que dans son nom, elle porte le nom de Dieu. Le reste, tout ce qui est domination, etc., c'est fabrication humaine. Asservissement, domination, machisme et compagnie, ça c'est humain, c'est pas de Dieu. Mais au contraire, on voit en revanche que s'ils s'aiment, eh bien, l'amour qu'ils ont est fécond. Soyez fécond, il le dit, Dieu. Et donc on voit bien que l'homme ne fera rien sans cette protection. Il doit rester dans l'humilité parce qu'il est humus, il est formé de la terre. Humus, c'est ça l'humilité, ça vient homme, humus, terre. Il doit rester dans l'humilité face à son épouse et ils partagent la même chair, tous les deux, et ils auront des manières différentes d'habiter cette chair, et dans la différence homme-femme, il y a quelque chose de Dieu qui se manifestera. Ce quelque chose de Dieu qu'il ne peut absolument pas reconnaître dans les animaux. Et l'émerveillement d'Adam face à Ève est le même que celui de Dieu face à la création. En Genèse 1, 31, il vit que cela était très bon. Et c'est la première fois, à la fin de la création, qu'on voit que Dieu dit très bon. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair. Au fond, le fait d'avoir une alliance avec sa femme, avec Ève, va faire que Adam va changer de vie, changer de manière d'être. Elle va l'aider, elle, à s'améliorer. Elle va l'aider à devenir meilleure. Elle va le tirer vers le haut. Parce qu'elle a reçu double part de l'esprit. Elle a été tirée de la côte d'Adam qui lui-même a reçu l'esprit et elle-même ensuite a reçu un autre esprit. Elle est plus spirituelle. Elle va l'aider de ce point de vue-là. Et il s'engage, au fond, Adam a un seul destin avec sa femme et il doit se séparer de son milieu familial, ne plus faire qu'un seul être avec sa femme, une seule histoire. C'est-à-dire, il forme un destin commun. Et moi qui ai l'habitude de préparer beaucoup les fiancés au mariage, je leur dis, quand vous vous mariez, vous formez quelque chose de différent de vos parents respectifs. Et il faut que ce soit différent. Quitte ton père et ta mère. C'est un appel, quitte ton père, quittez. Quitte ton pays, dit Dieu à Abraham, et va vers le pays que je t'indiquerai. Donc ça veut dire qu'au fond, le fait de la création, le fait de l'amour que Adam porte à Ève, l'emmène plus loin que lui-même et les invite au fond, à être les initiateurs d'une nouvelle communauté conjugale qui va être elle-même aussi image de Dieu. Chaque couple, homme et femme, qui s'unit devant le Seigneur, a une manière particulière d'être image de Dieu. Et c'est intéressant, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. On ne dit pas à la femme de quitter son père et sa mère. Alors que bien souvent, c'est l'inverse. C'est la femme qui suit son mari. C'est là où on voit que le côté plus bourgeois, j'allais dire, c'est à l'homme de quitter. C'est à l'homme à être l'initiative du don. C'est à l'homme à être au principe, au fond, de cette nouvelle communauté conjugale. Alors que c'est là où on voit le côté plus humain et un peu dans ce mariage bourgeois dont nous héritons, la femme porte le nom de son mari, alors que on demande à l'homme de quitter poursuivre sa femme. C'est là où on voit un peu, il faut faire attention aux déviances parfois qui ont été prises à travers le temps. Et on voit bien aussi que, et qu'ils deviennent une seule chair, dans l'unité de la chair, il y a quelque chose de l'unité qui est en Dieu. C'est la première fois que on mentionnera la question de l'unité, qu'ils deviennent un comme Dieu est un, parce qu'ensemble ils sont image de Dieu. Et l'unité de la chair, vraiment, c'est l'unité de la sexualité, l'unité de l'union intime des époux, dit qu'elle n'a rien de sale, contrairement à ce qui a été aussi véhiculé, il faut dire des choses simplement, n'a rien de sale, n'a rien de péché, non. L'unité, quand elle est vécue dans l'amour, dans un amour enraciné en Dieu, est le signe, au contraire, de cet amour de Dieu présent dans le couple. S'attacher à sa femme reprend le terme de l'attachement de Dieu avec nous. On le voit en Jérémie 13, 11. De même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi m'étais-je attaché toute la maison de Juda, la maison d'Israël, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, mon honneur, ma splendeur, dit le Seigneur. S'attacher, c'est dans le sens de l'alliance. Et dans Deutéronome 4, 4, vous êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Cet attachement de l'un à l'autre est source de vie, non seulement dans les enfants, mais source de vie l'un envers l'autre. Et on voit bien le combat pour rester attachés, parce qu'il y a plein de choses qui nous poussent à être détachés. Donc on voit que le mariage, au fond, c'est l'icône de l'attachement de Dieu à sa créature, hein, qui a vu dans l'attachement de l'amour du Christ pour l'Église sa plénitude. Quelque part, le mariage, c'est pour ça que c'est un sacrement. C'est signe d'une réalité qui est invisible pour nous catholiques, puis pour les orthodoxes. Le mariage, c'est un dit quelque chose dans l'unité de l'homme et de la femme, dit quelque chose qui est transcendant à l'homme et la femme, renvoie à l'amour de Dieu pour son peuple, à l'amour du Christ pour son Église. Et cet amour du Christ pour son Église est de toujours à toujours. Dieu ne va pas dire « aujourd'hui je t'aime, demain pas ». Combien de personnes s'unissent devant monsieur le curé avec cette perspective? J'en sais trop rien, pas beaucoup en tout cas. Pas assez. Et Jésus va dire clairement: ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et cette unité de l'homme et de la femme, à mon avis, elle va bien au-delà du mariage. Elle est dans toute la nature humaine, elle est dans toute activité humaine. Et on voit bien comment l'homme a chosifié les choses, a dit, ben voilà, il y a un travail pour les hommes, il y a un travail pour les femmes, il y a des secteurs pour les hommes, il y a des secteurs pour les femmes, chacun essayant de chosifier les choses, qui, on voit bien, particulièrement en mai 68, c'était une coquille vide, il n'y avait plus de raison d'être. Toute la réalité, elle est homme et femme. Et c'est vrai que l'on n'a pas assez dans l'Église donné d'importance à la femme. Non pas de l'ordination sacerdotale, parce que ça, justement, on a vu que la vocation de l'homme, c'est d'être de faire mémoire, et la vocation du prêtre, c'est de faire mémoire dans l'Eucharistie de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais dans les gouvernements de l'Église, dans quelque part des postes de décision. Et le pape François a eu quelque chose d'intéressant, il dit « Mais est-ce qu'il y aura des femmes cardinales ?» Il dit « Je ne demande pas à la femme d'être cléricalisée, il ne s'agit pas d'en faire un sous-prêtre, il s'agit qu'elle puisse apporter ce qu'elle a apporté, c'est-à-dire cet attachement à la personne humaine, c'est-à-dire ce désir de communion, ce souci de l'autre, de par sa maternité. » Et c'est assez intéressant, ça nous emmène un peu dans un autre domaine. Une partie de la crise que nous avons connue en 2008 avec les subprimes, voyez, la crise en 2008 avec les subprimes, donc était liée au fait, partie de la crise, que tous les traders étaient des hommes. Et qui fonctionnent beaucoup à la testostérone et à l'adrénaline. Et donc il fallait toujours tenter le pire, le tout pour le tout. Il fallait toujours aller dans... Et il y a eu un article, j'ai lu un article qui disait, si on avait mis plus de femmes dans cette profession très masculine, il y aurait eu peut-être plus, un peu plus le souci de l'autre. Et peut-être moins le souci d'adrénaline, de jouer le tout pour le tout. Après, c'est après. Les questions, c'est après. Donc, du coup, le tout pour le tout, etc. Donc, c'est intéressant de dire que, quelque part, la femme renvoie justement au primat de la personne sur le faire, sur l'excitation de la réussite. Je crois que c'est très intéressant de dire qu'il y a un vrai engagement et un véritable enjeu, mais faut-il encore qu'elle l'accepte ? Et qu'on ne fasse pas de la femme un homme comme un autre, parce que c'est pas lui rendre service. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Un peu un balancier comme ça qui passe d'un extrême à l'autre, après des années de machisme, voire des siècles de machisme. Voilà, on veut que la femme soit un homme comme un autre. Mais non, ce sera plus l'aide, ou ce sera l'aide contre l'homme, en rivalité. Et non pas côte à côte. Dieu leur dit, leur les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la. Multipliez-vous non seulement, c'est-à-dire, c'est pas reproduisez-vous, c'est pas pareil. On parle de procréation pour la nature humaine, pas de reproduction. Reproduction, c'est les animaux. Pour ce qui est de la personne humaine, on parle de procréation. C'est-à-dire reproduisez, transmettez le mystère de la personne. Soyez fidèles à ce mystère que vous avez reçu comme homme et femme et transmettez-le, communiquez-le. Et donc on voit en Marie, pour terminer, comment le mystère de la femme est accompli dans cette aide qui est côte à côte avec nous. Advocata nostra, notre avocate, comme on dit dans le Salve Regina. Elle est notre avocate. Elle est celle qui nous soutient dans le quotidien. Elle est celle qui nous rappelle la présence de Dieu. Parce qu'elle l'a vécu elle-même, dans sa propre chair, l'accomplissement des promesses de Dieu. Au fond, dès la création, on peut dire que la pensée de Dieu était déjà en Marie. En philosophie, on dit « ce qui est premier dans l'intention est dernier dans l'exécution ». Ce qui est premier dans l'intention et dernier dans l'exécution, c'est-à-dire ce qui est premier dans l'intention de Dieu et dernier dans l'exécution, c'est-à-dire dans l'accomplissement, dans la réalisation. Et qu'est-ce qui est dernier dans la réalisation du salut ? Eh bien, c'est Marie qui a été préservée du péché originel pour nous donner le Christ. Une autre parole de Dieu, et Dieu dit le Verbe. Non plus une parole qui vient mettre un ordre dans la nature, mais lui-même comme parole faite chair en Marie. La femme a cette vocation d'accueillir la parole. La première parole que Adam a entendue, c'est la parole de Dieu. La première parole que la femme a entendue, c'est la parole de l'homme. Il faudra un combat pour l'homme pour rester attentif à la parole de Dieu, comme pour la femme, d'être attentif à la parole de son homme. Parole parfois rare, voire trop rare. Mais elle pousse justement, elle va pousser, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, elle pousse l'homme à une première parole, un premier chant d'amour, elle le pousse en dehors de lui-même, elle le sauve de ce face-à-face, elle le sauve de l'enfermement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Avez-vous des questions ? Alors, je crois que spontanément, la femme va se tourner vers les métiers de la personne. Mais tout métier est appelé à être un métier de la personne. Mais derrière les chiffres, il y a des personnes. Derrière les chiffres, il y a des personnes. Et je pense que c'est important de se dire que c'est vrai qu'elle va être plus tournée vers les métiers en lien avec les personnes, parce que de par sa maternité. Mais est-ce qu'au fond... Est-ce que la difficulté de la crise économique qu'on connaît n'est de plus mettre la personne humaine au cœur de l'économie, mais l'économie comme dirigeant la personne humaine ?
Oui, sans doute. Mais du coup, si vous dites que les métiers sont interchangeables, on va peut-être en arriver à ce que vous disiez qu'il ne fallait pas faire, c'est que la femme devienne un autre homme.
Non, pas fort. Elle l'exercera avec sa féminité. Alors, on peut très bien lui demander d'être un autre homme. C'est ce qu'on, à mon avis, c'est ce qu'on demande bien souvent, avec les mêmes exigences, les mêmes horaires, la même pression, alors que ce n'est pas forcément ça qu'elle veut vivre. Est-ce que l'entreprise va être assez intelligente pour laisser à la femme cette capacité, par exemple, d'être chef d'entreprise ? Est-ce qu'elle va lui laisser cette capacité d'être aussi femme à l'intérieur même d'un métier qui est majoritairement occupé par l'homme ? Est-ce qu'on laisse la vie irriguer le monde de l'entreprise ou pas ? C'est sûr, si on dit à la femme, si elle part à 8h du soir, on lui dit bon après-midi, ça va pas le faire. C'est-à-dire, à 8h du soir, elle est chez elle avec les babies et partout, et voilà, donc ça va pas le faire. Donc, soit on lui permet aussi d'assumer, et il faut pas qu'elle ait à choisir, entre sa féminité et sa maternité, et en même temps d'apporter au monde le souci de la personne humaine. Il ne faut pas qu'on lui demande de choisir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu là.
Ah oui, mais aujourd'hui,
mais il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu aujourd'hui.
Oui, d'accord.
D'où, du coup, c'est important de lui dire, aux entreprises, de dire, c'est important d'avoir des femmes chefs d'entreprise qui elles-mêmes ont été enceintes, qui ont des enfants, etc., qui disent, à 6h du soir, vous partez. Mais vous pouvez être cadre. Moi, j'en connais, des personnes comme ça qui m'ont dit, j'ai plusieurs fois, etc., le ventre rond, elles m'ont dit, mais bon, maintenant, je suis dans les conseils d'administration, et j'apporte comme femme quelques... Si c'est un homme comme un autre, elle n'apporte rien. Si c'est pour être dans la tension, dans l'efficacité, elle va craquer d'abord, parce qu'elle voit bien que ses enfants vont la tirer, elle va culpabiliser comme pas possible. Elle va rien apporter. Mais tant qu'on ne mettra pas la personne humaine au centre de l'économie, d'une manière ou d'une autre, on ne laissera pas à la femme la capacité aussi d'accéder à des réalités de management, par exemple, ou des métiers qui, traditionnellement, sont plutôt réservés aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une majorité d'hommes qui s'assument, mais de dire aussi qu'à la femme, de dire, elle est là comme un rappel, de dire, faites attention, là, vous êtes dans l'excès, parce que l'homme seul est vite tenté par l'excès. Et donc, rappelez-vous qu'il y a des personnes derrière les chiffres. Ce n'est pas que des chiffres que vous maniez, il y a des personnes qui vont, et on le voit ô combien, des gens qui ont perdu leur emploi, perdu leur maison, des familles à la rue, il y a vraiment des personnes. Et tant qu'on ne déconnectera l'économie des personnes, on sera dans le problème. C'est de remettre l'humain au cœur de l'économie. Mais faut-il encore qu'on lui permette, ça je suis d'accord. Si c'est pour être un homme comme un autre, ça ne sert à rien. Avez-vous d'autres questions? Oui. Nouvel Adam, c'est le Christ. Quand on dit nouvel Adam, nouvelle Ève, c'est le Christ et la Vierge Marie. C'est-à-dire que en Marie nous est donné le nouvel Adam. En Marie nous est donné, oui, la nouvelle Ève, mais nous est donné par l'engendre le nouvel Adam. De ce point de vue-là, Marie, nouvelle Ève, nous donne le nouvel Adam, si vous voulez, voilà, j'ai affaire à des puristes. Mais voilà, du coup, quand on dit nouvel Adam, c'est la recréation, il y a à nouveau, alors ce n'est pas un couple originel, parce qu'il y a une maternité là, mais il y a un homme et femme. Donc, de fait, par cette dualité d'homme et femme, nous est redonné le salut, une recréation, un salut qui nous est donné par la femme. Et donc c'est de dire le Christ est nouvel Adam, c'est sûr, Marie nouvelle Ève, et on voit donc du coup dans ce nouveau binôme homme-femme, nous est redonné cette aide à l'humanité entière pour accueillir le salut. Avez-vous d'autres questions? Voilà. Oui, alors on est pas. Oui, alors mais c'est important de dire que l'écologie, ça peut être aussi une chance. C'est-à-dire détruire l'homme, à mon avis, ce serait se détruire les écologistes eux-mêmes. Donc du coup, peut-être faut les faire réfléchir, de dire qu'ils ne visent pas leur propre autodestruction. Mais ça peut être une tentation. Vous parlez du film Avatar, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir. Que l'écologie peut être une vraie chance. Parce que dans l'écologie, mais une écologie humaine, hein, comme Benoît XVI justement, nous avons un écosystème. La famille est un écosystème qu'il faut protéger. Il y a une écologie humaine. Et donc, du coup, nous sommes, nous aussi, nous avons notre propre environnement, la défense de notre environnement personnel. On a tous un environnement, on a besoin d'avoir une maison, on a besoin d'avoir de la santé, de l'éducation, une certaine sécurité, stabilité dans l'environnement, des changements brusques dans nos environnements, on voit bien, créent des traumatismes. Comme des changements brusques dans la nature, eh bien, créent aussi des difficultés. Donc, l'écologie, ça peut être une chance, parce que justement, ça permet de remettre la nature au cœur du débat. Et donc, quelque chose que l'homme accueille et qu'il lui-même n'a pas fabriqué. Et ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'au fond, dans la nature, on redécouvre un ordre, nous, comme croyants, on découvre un ordre, mais ceux qui ne sont pas croyants pourraient éventuellement redécouvrir. Mais on voit bien que au niveau politique, comme c'est un mouvement politique qui se cherche, l'écologie, parce qu'il y a de tout, il y a tout et n'importe quoi dedans. Vous avez de tous les bords, parce que au niveau idéologique, au niveau pensée, il n'y a pas une pensée construite. Et je trouve ça très beau qu'au contraire, de voir dans l'Église, et particulièrement avec le discours de Benoît XVI devant le Parlement allemand, on voit une pensée construite, mais à partir de la parole de Dieu, sur l'écologie. On a une vision écologique, parce que vraiment, donc d'où aussi de dire que dans la nature nous est donné ce qu'il faut donner à l'homme et à la femme pour gérer leur fécondité, pour etc., etc. Je crois que c'est la nature, au fond, de reprendre ce contact avec la nature comme nous venons de Dieu. Mais on peut très bien dire le problème de la nature, c'est l'homme. Et donc, ce qu'on appelle le malthusianisme, ça veut dire quoi? Il faut diminuer au maximum toutes les naissances. Il faut faire baisser la quantité d'hommes et de femmes sur Terre, parce que la vraie menace, c'est l'homme et la femme. Ça existe aussi dans certaines tendances écologistes. Donc, mais on voit bien, au commencement, il n'en était pas ainsi, dirait Jésus, il est fait homme et femme, croissez, multipliez-vous. Donc le problème n'est pas la quantité d'hommes et de femmes sur Terre, Le problème, c'est l'égoïsme de certains qui ne veulent pas partager les richesses avec d'autres. Et qui, d'une manière ou d'une autre, voilà, veulent accumuler pour eux un niveau de vie et laisser d'autres dans la misère. Le problème vient du cœur humain. Il y a largement de quoi nourrir toute la population terrestre, voire plus. Et encore, tout ce qui est à venir, tout ce qui est devant, de progrès scientifique, dans l'agroalimentaire, toutes les techniques, etc., qui permettront... l'humanité augmente, plus quelque part le gâteau augmente. Alors que dans le malthusianisme, on dit, il y a un gâteau qui fait 100, si on est 1000, ben on se partage en 1000, si on est 1 million, on se partage en 1 million. Ben non, le gâteau, il ne fait pas pareil, il fait pas 100, il fait 300, 400, 500. Parce que chaque personne humaine apporte aussi une fécondité, apporte aussi une capacité de création, de créativité. Alors, vous voyez, là aussi, le malthusianisme, par rapport à la vision de l'Église, qui disent, il y a une paternité de maternité responsable, on ne va pas donner naissance comme ça par quantité industrielle, mais en même temps, le problème n'est pas... L'homme et la femme ne sont pas des menaces. Ce qui est menace, c'est l'orgueil, l'amour de l'argent, hein, l'amour du pouvoir... Et l'amour de toutes les formes de plaisir désordonné. Voilà, ça c'est la menace. C'est le cœur humain qui est bouleversé et malade. Avez-vous d'autres questions ? Et dans nos vocations comme religieux. Alors, bonne question. Nos vocations comme religieux ou comme prêtres, bien, je trouve que c'est... Alors, premièrement, il est important de donner dans l'Église, de façon générale, un rôle aux femmes, non pas comme les cléricaliser et d'en faire des sous-prêtres, mais d'avoir un vrai rôle, un lieu où elles puissent prendre des décisions. Deuxièmement, dans nos vocations... Nos vocations s'enracinent dans l'imitation du Christ, et donc du coup, c'est intéressant de dire que l'homme et la femme sont un signe de cette unité qui est en Dieu, etc. Mais dans le célibat consacré, nous sommes signes aussi de cette réalité transcendante qu'est la vie éternelle, où il n'y aura plus ni homme ni femme, dit saint Paul. Le mariage... Et pour cette terre, malheureusement ou heureusement, selon que votre mariage est heureux ou malheureux, mais le mariage est pour cette terre. Le mariage n'est pas un sacrement que l'on retrouve dans l'éternité. Oui, mais c'est pas à propos du mariage, c'est à propos du pardon des péchés. Le mariage est pour cette terre. Oui, justement, de ça. Voilà. De qui sera-t-elle l'épouse? Elle les a eues 7 pour mari. Eh bien, dans l'éternité, il n'y aura pas de. Parce que dans l'éternité, le mariage est de l'ordre du signe. Mais quand on a la réalité, on n'a pas besoin du signe. J'ai pas besoin. Si je vis avec quelqu'un et je l'ai en permanence, j'ai pas besoin d'avoir sa photo. Ah ben non, je vais avoir la photo de quelqu'un. Parce que la personne est défunte, parce que la personne est loin, on n'a pas besoin d'avoir une photo de quelqu'un ou vraiment être attaché à une photo de quelqu'un, alors qu'on l'a à ses côtés, sinon il y a un problème pathologique là. Donc ça relève d'autre chose, ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir que le mariage est de l'ordre du signe. Signe, ça veut dire sacrement. Sacrement, ça veut dire signe. Donc vous êtes comme homme et femme mariés, signe. Mais le religieux aussi est signe. Vous êtes signe de l'alliance entre l'homme et la femme, entre l'humanité et Dieu. Mais l'homme, le religieux, lui, n'est pas signe de cette alliance-là, il est signe de quelque chose à venir, où il n'y aura ni homme ni femme.
Ça veut dire qu'au ciel, il n'y aura pas de lien particulier entre l'homme et la femme.
Il y aura un amour particulier avec tous ceux avec qui on aura un lien particulier sur cette terre. Mais ce n'est pas de l'ordre sacramentel. On sera comme baptisé au ciel, on sera comme confirmé au ciel, on ne sera pas comme marié au ciel.
Sans confirmation.
on sera dans l'amour de Dieu, unis de façon particulière, hommes et femmes, mais en Dieu, mais il n'y a plus besoin, parce que vous êtes, le mariage est signe d'une réalité invisible. Quand vous avez face à la réalité invisible, vous n'avez plus besoin du mariage. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas unis particulièrement, comme avec vos enfants, comme avec vos parents, comme avec tous ceux que vous avez aimés. On sera, il y a une communion d'amour en Dieu avec tous ceux qu'on aura vécu, avec qui on aura vécu ça sur terre. Mais j'allais dire, c'est vrai pour tout le monde, mari et femme, mais c'est vrai pour les amitiés, c'est vrai pour tous ceux qui ont compté dans notre vie et qu'on a aimé, eh bien, d'un amour désintéressé, on retrouvera cet amour désintéressé au ciel de façon planifiée.
Mais d'un autre côté, dans la communion des saints...
Alléluia. Allez-y. Il se passe beaucoup de choses, là. Allez-y, allez-y.
Dans la communion des saints, quand il y a un époux qui meurt, voilà, cette communion des saints continue d'exister dans le mariage.
On est tout... Alors... Le sacrement, de fait, on peut se remarier une fois veuf.
Oui, non, mais même
la communion des saints. D'accord, la communion des saints, le problème n'est pas la communion des saints, je veux dire, en général, mais il n'y a pas de mariage, parce que sinon, parce que justement, on peut se remarier une fois veuf ou veuve. Parce que justement, le mariage est pour cette terre.
Mais même un veuf, il peut devenir prêtre.
Même un veuf peut devenir prêtre. Donc se dire bien que les personnes, même, je vais dire, dans l'Église catholique orientale, des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Parce que autant la vie religieuse est signe de l'au-delà, autant le sacerdoce est signe du Christ qui guide son peuple, c'est du pasteur. Donc c'est tout à fait c'est différent. Le mariage en tant que tel ne s'oppose pas au sacerdoce. On pourrait très bien imaginer, et c'est le cas dans l'Église catholique orientale, des hommes mariés, jamais le mariage des prêtres, ça ne veut rien dire, des hommes mariés qui sont ordonnés prêtres, tous les premiers évêques étaient mariés, Saint-Pierre était marié, puisqu'on parle de la guérison de sa belle-mère, qui à mon avis a contribué à sa sainteté. Donc, mais ça, c'est une exégèse personnelle et portative. Donc du coup, le fait qu'il ait, il ait demandé la guérison de sa belle-mère, donc du coup, voilà, ça veut dire que parce que justement, on voit la différence entre le judaïsme et le christianisme, c'est que dans le judaïsme, on existe, le célibat et a fortiori la stérilité est une malédiction, parce que dans le judaïsme, il n'y a pas cette notion de vie éternelle, on se prolonge par ses enfants. Nos enfants sont la prolongation de nous-mêmes, et donc Dieu bénit dans les enfants jusqu'à de génération à génération. Tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Voilà, le fait d'avoir des enfants est le lieu de la bénédiction de Dieu. Oui, mais nous passons aussi à un autre niveau, parce que par le Christ nous avons le salut et donc l'accès à la vie éternelle. Nous croyons aussi que dans le célibat consacré, il y a quelque chose qui dit Dieu, une réalité. Mais vous remarquerez bien que les vœux de religion, pauvreté, chasteté, obéissance, ne sont pas des sacrements. Les vœux de religion disparaissent dans la vie éternelle. Il n'y a pas de vœux, je n'arriverai pas comme frère, ou une sœur n'arrivera pas comme sœur dans la vie éternelle. Parce que c'est simplement de l'ordre du signe.
Et vous avez
de
la chance, parce qu'en tant que religieux, vous n'avez pas fait de
mère. Alors, voilà, on en a plusieurs. Voilà, ça sent la blessure. Donc... Dans la vie religieuse, on n'a pas de belle-mère. On a l'église comme belle-mère, donc ça fait quand même une grosse belle-mère là, à côté. Là, voilà. Mais dans la vie religieuse, on a cet appel, alors qu'on arrive comme.
On a une double chance aussi.
Oui, on a beaucoup de chance. Vas-y, allez-y.
Parce que
sur
terre, vous êtes signe de Jésus, et au ciel, vous n'aurez plus l'encombrement de votre.
Ah oui. Oui, on aura. Oui, on n'a pas l'encombre de sa femme. Bon, c'est sauf dans les pires des cas. Mais du coup, normalement, au ciel, on a l'encombrement de personne. Donc, du coup, je crois qu'au contraire, c'est intéressant de se dire que le religieux, il est signe. Et donc, par ses vœux, mais ses vœux disparaissent. De même, la foi, l'espérance, la charité. Eh bien, la foi et l'espérance disparaissent quand il y a la charité. Mais on est prêtre pour l'éternité. C'est-à-dire que j'arriverai comme prêtre, mais j'arriverai pas comme religieux. J'arriverai comme baptisé, comme confirmé, comme prêtre. C'est ce qu'on appelle des sacrements qui mettent des sceaux, des stempels là, les sceaux. Mais j'arriverai pas comme religieux dans l'éternité.
Mais en tant que baptisé, on est prêtre, prophète et roi.
Voilà, exactement. Vous êtes aussi prêtre, prophète et roi, et vous arriverez dans cet état de prêtre, prophète et roi, dans le royaume. Et non pas comme et non pas comme épouse, ou comme mère. De même, vous n'arriverez pas comme mère dans le royaume, ou grand-mère. Ça, c'est bien de ne pas avoir arrivé comme mère. Non, mais ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas des liens avec vos enfants. Ça veut dire que simplement votre lien avec vos enfants, avec vos petits-enfants, et il sera d'une autre nature. Bien sûr qu'il y aura un lien, ça ne veut rien dire. On a aimé quelqu'un, on s'est donné à lui, ça n'aurait aucun sens. Mais il est d'une autre nature. Il est en Dieu. Il est pour cette terre. Mais en Dieu, vous retrouverez, on dit, ben voilà, cette femme va retrouver son mari, etc. etc. On le dit souvent, cette expression, mais ce n'est pas faux. Mais c'est pas, ce sera pas, ils ne seront pas mari et femme devant Dieu. Je veux dire, c'est pour cette terre. Donc du coup, justement, ce qu'a dit Jésus avec celle qui a eu sept maris, ben voilà. Donc voilà, mais pour les hommes, c'est impossible, pour Dieu, c'est possible. Donc je crois que c'est important de resituer aussi cette relation homme-femme, dans la dimension spirituelle.